Les mystères du Palais Royal, quatrième partie. Chapitre 22. Désespoir. Cependant, Hébé, ainsi qu'elle l'avait promis à Déborah, revint le lendemain. Elle s'attendait à trouver le mariage de Raoul de la Tremblay avec la Juive décidé. Elle avait armé son cœur d'une triple cuirasse. Elle avait revêtu son visage d'un masque impassible, afin de ne laisser voir ni tressaillement, ni pâleur quand les premières paroles de Déborah, confirmant ses pressentiments, viendraient la foudroyer. Qu'on juge de son étonnement, lorsqu'en entrant dans le salon du rez-de-chaussée, elle trouva Déborah en vêtements de deuil, les cheveux épars, étendue sur le divan, le visage enfoncé dans les coussins, les baignant de ses pleurs silencieux. À l'arrivée d'Hébé, la jeune fille releva la tête. Son beau visage faisait mal à voir. Elle était d'une pâleur livide. Un large cercle bleuâtre et violet se dessinait autour de ses grands yeux noirs. Ses larmes coulaient sur ses joues marbrées comme deux intarissables ruisseaux de grosses perles. Ses lèvres pâlies ébauchèrent un triste sourire. Elle tendit à Hébé sa petite main brûlante. En face de cette douleur poignante qui se manifestait par de si désolants symptômes, la fille du diable oublia pour quelques secondes et son amour pour Raoul et sa haine jalouse à l'endroit de la fille de Nathan. Elle ne se souvint que de son ancienne affection pour Déborah. Elle se sentit émue. Enfin, ce fut du fond du cœur et avec un sincère intérêt qu'elle s'écria « Oh, ma sœur, au nom du ciel, que vous est-il arrivé? Pourquoi pleurez-vous ainsi? Répondez-moi bien vite, car je meurs d'inquiétude et d'angoisse. » « Ma sœur, murmura Déborah, je suis bien malheureuse et je voudrais mourir. Mourir? Et je bénirais le Dieu de mes pères s'il me rappelait à lui, poursuivit la Juive. Mais enfin, qu'avez-vous pour vous désespérer ainsi? Quel malheur vous a frappé? Le plus grand de tous. Parlez! Monsieur de la Tremblay est venu. Et? S'écria Hébé avec avidité. Il ne vous aime point peut-être? Peut-être n'a-t-il point demandé votre main? Déborah fit un geste douloureux, puis elle murmura. « Il m'aime, au contraire, il m'aime éperdument, et il a demandé ma main. »« Mais alors, balbutia Hébé, mais alors je ne comprends pas. »« Vous ne comprenez pas mon désespoir ?»« C'est vrai, c'est que vous ne savez pas tout. Mon père a repoussé la demande de Monsieur de la Tremblay. »«
Repoussé ? » ?»«
Oui, et sans lui laisser aucun espoir. » Hébé se sentit renaître. Cependant, elle demanda. « Et quels sont les motifs de ce refus ?»«
Des motifs insensés. Mon père prétend que je serai malheureuse avec Raoul. »«
Comme si on n'était jamais malheureuse avec un mari qu'on aime et qui vous aime. »« Il prétend que moi, juive et fille d'un juif, je serai traitée avec dédain dans le monde des grands seigneurs auxquels appartient Monsieur de la Tremblay. »« Que m'importe pourvu qu'il m'aime ?»« Il parle de la race de David et de bien d'autres choses dont je ne me souviens pas et qui me tuent. » Il dit que Raoul est joueur et qu'il dévorerait toute ma fortune. Eh bien, ne vaudrait-il pas mieux partager la misère avec lui que la fortune avec un autre? Oh, les pères! Dans leur prétendue sagesse, ils veulent décider du bonheur de leurs enfants et ils les condamnent à un éternel désespoir. Ils les condamnent à mourir, car je sens que je mourrai bientôt. Déborah, après avoir ainsi parlé avec une animation extraordinaire, se tut, et ses sanglots redoublèrent. Hébé, voyant la ruine de toutes les espérances de sa rivale, cessa soudainement d'en être jalouse, et la plaignit sincèrement. Elle prit ses deux mains entre les siennes, et les appuya contre son cœur. Elle mêla ses larmes à celles de Déborah. Peu à peu, la jeune fille se calma. Son excessive agitation fit place à une prostration presque complète. Ses sanglots s'éteignirent, ses larmes se tarirent. Elle resta plongée dans un chagrin morne et profond qui se concentrait en lui-même. Et par cela seul, avec quelque chose de bien autrement effrayant qu'une douleur bruyante et communicative. Hébé n'essaya point d'ailleurs de consoler Déborah. Elle savait qu'il est des blessures qui ne se cicatrisent que lentement et auxquelles il faut éviter de toucher si l'on ne veut pas qu'elles se rouvrent plus douloureuses et plus saignantes que jamais. Avez-vous vu quelquefois, parmi les reines d'une serre, une fleur,
la plus rare, entre les plus brillantes et les plus parfumées. Elle est éclatante et vivace. Elle élève au-dessus des autres son calice orgueilleux. Elle aspire l'air et la lumière par tous les pores. Soudain, la fleur languit et souffre. Sa tige se ploie, ses pétales pâlissent, son parfum disparaît et sa corolle se flétrit. Vainement, le soleil l'inonde de ses chaudes effluves. Vainement, on l'entoure de soins. La pauvre fleur est condamnée. Elle s'étiole de plus en plus et elle meurt. On cherche alors la cause du mal. Un ver lui rongeait la racine. Il en fut pour Déborah comme pour la fleur dont nous venons de parler. À partir du jour où Nathan avait rejeté la demande de Monsieur de la Tremblay, Déborah s'étiola d'une façon visible. La sombre mélancolie qui s'était emparée d'elle ne la quittait plus. Son beau teint de vierge arabe, son teint d'une pâleur si chaude, prit des tons livides et plombés. Une auréole bleuâtre se dessina autour de ses paupières. Ses lèvres perdirent leur joyeuse couleur qui rappelait la fleur entrouverte du grenadier. Les rondeurs délicieuses de sa poitrine s'effacèrent en une maigreur uniforme. Déborah était belle encore, mais de cette beauté sinistre des jeunes filles qui vont s'éteindre. Chapitre 23. Le père et la fille. En face des symptômes effrayants que nous venons de décrire, Nathan finit par s'alarmer. Déborah ne se plaignait jamais, mais il était bien facile de voir qu'elle souffrait et qu'elle se sentait lentement mourir. Le juif, désespéré, appela chez lui les plus fameux médecins parmi ceux de sa religion. Tous, ils reconnurent la présence d'une consomption effrayante et mortelle. Seulement, la cause du mal leur échappait. Rien dans l'admirable constitution de la jeune fille n'expliquait l'origine et les progrès de cette consomption étrange. Ils l'interrogèrent. Déborah se renferma dans un silence absolu. « Votre enfant nous cache quelque chose, » dirent-ils à Nathan. « Les sources de la vie sont attaquées. Mais pourquoi ? Nous l'ignorons. Et dans cette ignorance, notre savoir est impuissant. Nous ne pouvons la guérir. » « Ainsi ? » demanda le juif avec une suprême angoisse. « Vous ne voyez pas de remède ? » ?»« Aucun. » « Vous ne concevez nul espoir ? » ?»« Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob peut seul la sauver. » en faisant un miracle pour elle. Mais si son mal avait pour cause un chagrin profond qu'elle refuse de révéler et qui la tue, et si ce chagrin venait à cesser, qu'arriverait-il? Peut-être alors les forces de la jeunesse triompheraient-elles des ravages déjà causés, mais il est déjà bien tard. Reviendrez-vous? À quoi bon? Le juif resta seul avec son désespoir. « Oh, Seigneur, Seigneur !» s'écria-t-il alors en levant les mains vers le ciel. « Devait-il donc être écrit là-haut que je serais l'assassin de ma fille ? C'est son bonheur que je voulais, et voilà comment je suis récompensé de mon amour pour elle. J'ai fait tout ce que je devais, plus que je ne devais. Je cède. Que l'avenir de cette malheureuse enfant soit perdu. Mais qu'elle vive, qu'elle vive !» Et il alla trouver Déborah. Celle-ci l'accueillit avec ce même sourire déchirant qui, depuis quelques semaines, navrait le cœur du pauvre père. « Ma fille, lui dit-il, comment te trouves-tu aujourd'hui ? » « Bien, mon père. Il me semble que je souffre moins. » L'accent de ses paroles en démentait le sens. « Écoute, reprit Nathan, j'ai un aveu à te faire et un pardon à te demander. » Déborah attacha sur son père le regard de ses yeux étonnés. « Un aveu ? Un pardon ? » répéta-t-elle. « Oui, je t'ai bien fait du mal, mais je m'en repens, et il est encore temps de le réparer. »« Pourquoi parler ainsi, mon père ? Vous savez bien que vous ne m'avez jamais fait de mal. » »« Laisse-moi continuer, mon enfant. Je veux te parler du chevalier Raoul de la Tremblay. » Une ardente rougeur remplaça la pâleur livide des joues de la jeune fille. Elle pencha sa tête sur sa poitrine amaigrie et ne répondit pas. Nathan poursuivit. « Sais-tu pourquoi, dit-il, quand ce gentilhomme a demandé ta main, j'ai refusé de consentir à cette union ?»« Vous me l'avez dit, mon père, » balbutia Déborah. Je t'ai dit qu'il ne te rendrait point heureuse.
Je t'ai dit qu'il était joueur et dissiperait ta fortune.
Oui, mon père, vous m'avez dit cela. Et je n'ai rien répondu, car c'était peut-être la vérité.
Eh bien non, ce n'était point la vérité. Je me trompais, ou plutôt, je mentais. J'avais pour refuser un tout autre motif.
Les yeux de Déborah s'agrandirent. Elle ne put que murmurer.
Un autre motif ?
Lequel ?
Figure-toi, j'ose à peine l'avouer, que dans ma jalousie paternelle, je craignais, si tu devenais une grande dame, que l'orgueil ne te fît oublier et dédaigner ton vieux père. Et je t'aime tant, vois-tu, que la pensée de n'être plus aimée exclusivement par toi me faisait mourir.
Ne plus vous aimer ? Vous vous dédaignez, mon père ? Ah, vous me jugez bien mal.
Je l'ai compris, mon enfant, je le comprends. Je t'en demande pardon, pardon à deux genoux. Et le vieillard, en effet, s'inclina devant la jeune fille.
Que faites-vous ? S'écria cette dernière en s'efforçant de le relever. Que faites-vous ? Un père à genoux devant sa fille.
C'est ma place, et j'y resterai jusqu'à ce que je t'aie entendu me dire que tu me pardonnes.
Je ne puis vous pardonner, puisque je n'ai jamais eu de ressentiment contre vous.
Mais tu souffrais.
C'est vrai.
Et maintenant que j'ai compris mon erreur,
maintenant qu'il n'y a plus d'obstacle à l'accomplissement de tes désirs, tu ne souffriras plus, n'est-ce pas ?
Plus d'obstacle ? Répéta Déborah haletante.
Plus d'obstacle, dites-vous ?
Oui, mon enfant. Si tu penses toujours à Monsieur de la Tremblay, eh bien, je consens à ce que tu deviennes sa femme.
Ces paroles brûlèrent le gosier de Nathan comme un fer chaud. Il ne les avait pas plus tôt prononcées que Déborah poussa un grand cri, et se soulevant du divan sur lequel elle était étendue, elle tomba sans connaissance entre les bras de son père. Nathan crut que l'excès de la surprise et de la joie venait de la tuer. S'il avait eu un couteau sous la main, certes, dans ce premier moment, il se le serait enfoncé dans le cœur. Il heurta son front contre les murailles en répétant avec des sanglots convulsifs « Assassin de ma fille ! Assassin ! Assassin !» Puis il vint tomber à genoux auprès de ce corps inanimé et il appuya son front brûlant sur cette poitrine qui lui semblait froide, tout en murmurant d'une voix entrecoupée « Morte ! Morte ! Et c'est moi, moi son père, qui l'ai tué !» Mais soudain, il sentit les deux bras de Déborah se nouer doucement autour de son cou. Un baiser s'appuya sur sa joue baignée de larmes, et une voix douce et faible lui dit tout bas « Je suis heureuse, bien heureuse, et maintenant je ne veux plus mourir. »
Quelques minutes après ce moment, le Juif écrivait à Raoul de la Tremblay. « Venez, lui disait-il, si vous aimez toujours Déborah, Déborah est à vous. » Chapitre 24. 10 louis pour du poison. Le lendemain, la fille du diable, qui ne manquait guère chaque jour de venir pendant quelques heures tenir compagnie à la triste et mourante Déborah, arriva à l'heure accoutumée. Au moment où elle souleva la portière qui donnait accès dans le petit salon, voici quel fut le tableau qui s'offrit à elle. Déborah, parée de son plus ravissant costume oriental, Déborah, pâle de sa pâleur qui déjà n'était plus livide, belle de ses longs et magnifiques cheveux noirs, tressés et formant sur sa tête un diadème splendide, belle du feu voilé de ses grands yeux, abandonnait sa main aux deux mains caressantes de Raoul, assis à ses pieds sur un carreau de damas des Indes. Depuis la veille, la jeune fille s'était en quelque sorte transfigurée. On voyait que le sang recommençait à courir, généreux et pur, dans ses veines. On voyait que la vie revenait en elle. La jeunesse et l'amour avaient fait ce miracle, vainement demandé par les médecins juifs aux dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nathan, debout à quelques pas du groupe que nous venons de décrire, contemplait cette scène avec un regard et un sourire d'une indéfinissable expression. « Ma fille est sauvée, » se disait-il. « Sauvée, mais à quel prix ?» Hébé recula comme si elle venait de marcher sur un serpent, comme si elle sentait déjà dans sa chair la morsure du venimeux reptile.
Elle voulut laisser retomber la portière et s'enfuir, pour aller exhaler ailleurs sa rage jalouse, avec des cris et des sanglots. Mais il était trop tard. Déborah avait vu son amie. Déjà, elle s'était levée, et tenant toujours Raoul par la main, elle courait à Hébé, bien faible encore, et elle lui disait en lui tendant son autre main « Le voilà, celui dont je vous parlais si souvent, ma sœur. Le voilà, celui que j'aime. Le voilà, mon fiancé. » Déjà, Hébé s'était composé un visage calme. Elle s'inclina et elle répondit « Je connaissais déjà Monsieur de la Tremblay. »«
Vous le connaissiez ?» s'écria Déborah en attachant sur Raoul et sur Hébé un regard soupçonneux.
« Mademoiselle m'a sauvé la vie, » dit Raoul.
« Mais où ? Mais comment ?» demanda vivement la juive.
Raoul raconta la nocturne et sanglante aventure de la rue des Prouvaires.
« Mais alors ?» murmura Déborah, luttant contre un soupçon indéterminé. « Il est bizarre qu'Hébé ne vous ait pas reconnu. Ou du moins ne m'ait pas dit qu'elle vous reconnaissait. Le jour où, après avoir entendu prononcer votre nom et avoir soulevé la tenture pour vous regarder, elle s'est évanouie.
« Ma sœur, » répliqua Hébé, « il n'est pas étonnant qu'au jour dont vous parlez, je n'ai pas reconnu Monsieur de la Tremblay. Au moment précis où je soulevais la tenture, cette douleur aiguë qui m'a fait me trouver mal s'est emparée de moi et ne m'a permis de rien voir.
« Quant à moi, » dit Raoul, « je serais allé déjà remercier mademoiselle et sa mère des soins si affectueux qui m'ont été prodigués dans leur logis, mais, préoccupé en m'éloignant, j'ignorais jusqu'au nom de la rue que je n'avais pas pensé à demander. » Cette double explication, qui n'était vraie cependant qu'en ce qui concernait personnellement Raoul, satisfit Déborah. Les vagues soupçons qui, pendant quelques secondes, s'étaient élevés dans son esprit à l'endroit d'Hébé, lui parurent absurdes. Elle fut la première à se jeter au cou de la jeune fille et à l'embrasser avec cette effusion de tendresse que donne le bonheur, en la remerciant de ce qu'elle avait fait pour Raoul.
« Et ?» demanda Hébé au bout d'un instant et d'une voix parfaitement calme. « À quand le mariage ?»«
À bientôt, j'espère !» s'écria Raoul.
Déborah répondit en rougissant. « Oh, le jour n'en est pas encore fixé. »«
Aussitôt que la santé de ma fille sera complètement rétablie, » dit Nathan, « nous unirons le jeune et beau couple. »
« Et ?» fit Déborah à l'oreille d'Hébé.
« Vous me direz, n'est-ce pas, chère sœur, ce que vous désirez que je vous offre pour présent de noces ?»«
Un présent de noces ?» se dit Hébé à elle-même. « C'est moi qui vous en promets un, et le mien vaudra le vôtre. »
Une heure après la scène à laquelle nous venons de faire assister nos lecteurs, la fille du diable montait rapidement le noir et étroit escalier de la maison de la rue des Prouvaires. Impétueuse comme un ouragan, elle pénétra dans la misérable mansarde qu'elle habitait avec la mère Moloch. Hébé était pâle, haletante, ses traits tirés, ses mains agitées d'un tremblement nerveux, décelaient une agitation terrible. La vieille femme allait l'interroger, mais Hébé ne lui en laissa pas le temps. « Écoutez, » dit-elle, « vous avez fait beaucoup pour moi. Il faut que vous fassiez plus encore. »«
Quoi donc ?
Peut-être que ce que je vais vous demander va-t-il vous effrayer. » « Il faut que vous me l'accordiez cependant. Sinon, je vous quitte à l'instant pour ne plus revenir. Vous vivrez seule, vous mourrez seule. »«
Parle, ma fille, que veux-tu de moi ?
J'ai tant vu de choses en ce monde qu'en vérité, je ne sais pas ce qui pourrait m'épouvanter. Ce que tu souhaites est donc bien terrible ?
Oui. Encore une fois, parle. »
« Vous qui savez tout, » dit Hébé, « vous devez savoir le secret de ces poisons terribles qui tuent sans laisser de traces. »
La mère Moloch eut aux lèvres un sourire d'une expression infernale.
« En effet, » répéta-t-elle, « je sais ce secret.
Il me faut un de ces poisons.
« Tu as donc un ennemi, ma fille ?»«
J'ai une rivale. »«
Ainsi tu aimes. »«
Oui, j'aime, et je hais. » »«
Pauvre folle. » »«
Ce n'est ni une approbation, ni un blâme que je vous demande. C'est du poison que je veux. » »«
Te faut-il un poison qui tue lentement ou bien un poison qui foudroie ?»«
Je veux que la mort arrive lentement, mais sans douleur, comme un sommeil. » »«
C'est bien, je te donnerai ce poison. »
Quand ?
Lorsqu'il sera prêt.
Dans combien de temps ?
Dans 3 jours.
Que c'est long !
Je ne puis aller plus vite. Et encore, pour préparer ce poison terrible, il me faut de l'argent.
Beaucoup ?
10 louis. Dis Louis, s'écria Hébé. Tout autant. Les drogues que j'y dois employer se vendent leur pesant d'or, et l'une d'elles est si rare que j'aurai grand-peine à me la procurer.
Dis Louis, répéta Hébé pour la seconde fois.
Mais je ne les ai pas.
Il me les faut cependant. Sans ces 10 louis, je ne puis rien.
Hébé frappa un meuble de son poing fermé.
Être pauvre, dit-elle. Oh malheur!
Mais soudain, un sourire plus étrange peut-être que celui de la mère Moloch vint écarter les coins délicats de sa bouche. Elle reprit son mantelet à capuchon et le jeta sur ses épaules.
Dans 1 heure, dit-elle, je serai revenue et vous aurez cet argent. Les 10 louis qu'il vous faut, je vais les emprunter.
À qui? Demanda la mère Moloch.
À mon amie Déborah, répondit Hébé.
À la fille du juif Nathan. Et elle sortit de la chambre.